Ciel. 10h30 à Paris, 8h30 en temps universel et à Abidjan. La dernière édition d'Afrique Matin. Bonjour Xavier Besson.
Bonjour Juan, bonjour à tous. Et ce chiffre à la une ce matin, 4 millions de Soudanais ont quitté leur pays depuis le début de la guerre il y a 2 ans. Des hommes, femmes et enfants qui fuient les violences et qui ont trouvé refuge dans les pays voisins, notamment en Égypte. Témoignage dans un instant. Dans ce journal également, des militants libyens des droits de l'homme qui dénoncent les conditions de vie des migrants subsahariens, et le Niger où le syndicat des unions des scolaires est de nouveau en grève et veut rétablir le dialogue avec les autorités de Niamey. Ils ont pris donc la direction principalement de l'Égypte, du Soudan du Sud et du Tchad. L'ONU estime que 4 millions de Soudanais ont fui leur pays depuis le début de la guerre en 2023. Cette guerre qui oppose le président de la transition, le général Al-Burhan, soutenu par l'armée, qui contrôle surtout l'est du pays, à son ex numéro 2, le général Emeti, et ses paramilitaires, force de soutien rapide. Désormais, le HCR, au commissariat de l'ONU pour les réfugiés, parle de jalons dévastateurs dans la plus grave crise de déplacement de population au monde. Et pour RFI, Martin Dumas-Primbaud a recueilli le témoignage d'une militante soudanaise qui avait choisi de s'installer au Caire.
Naïda Mansour est arrivée en Égypte en juillet 2024 et comme de nombreux compatriotes, elle a mis plus d'un an à obtenir sa demande d'asile.
C'est une situation vraiment inhumaine car on ne peut pas vivre vraiment ici en tant que réfugié protégé et pris en charge. Il y a des violations massives des droits de l'homme. Les ouvriers soudanais dans les usines et sur les chantiers travaillent 12 heures par jour sans mesure de sécurité et sans indemnisation en cas d'accident du travail.
Dans ces conditions, certains ont pris la route du retour dès l'annonce de la reprise de Khartoum par l'armée régulière à la fin du mois de mars dernier.
Le problème, c'est que la situation ne s'améliore pas là-bas. Au contraire, il y a maintenant de nombreux cas de choléra. Les eaux sont contaminées à cause des armes utilisées et des nombreux cadavres jetés dans le Nil.
Débordée par l'afflux et paralysée par les coupes budgétaires, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés en Égypte a été contrainte, fin mars, de suspendre tous ses programmes d'aide médicale. Martin Dumas-Primbaud, Le Caire, RFI.
Et ce matin, alors que les deux camps belligérants de cette guerre au Soudan se renvoient la responsabilité, le secrétaire général de l'ONU réclame, lui, une enquête urgente après l'attaque qui a visé lundi un convoi d'aide humanitaire destiné à la ville d'El Fasher. 5 membres de ce convoi du Programme Alimentaire Mondial et de l'UNICEF ont été tués. Et parmi les pays voisins du Soudan qui accueillent aussi des réfugiés de guerre, il y a également la Libye, pays où par ailleurs la situation des migrants, notamment subsahariens, n'est guère plus reluisante. 20 000 migrants sont aujourd'hui détenus dans des centres de rétention en Libye, d'après des organisations de défense de droits de l'homme. Et ils y sont maltraités, nous explique Ouda Ibrahim.
Ahmad Lamloum a recueilli les témoignages de migrants interceptés en mer et dans le désert par les gardes frontières. Il visite régulièrement les centres de rétention. Ce chercheur qui préside le centre d'études de Benghazi sur les migrants et les réfugiés dénonce une corruption généralisée au sein des services sécuritaires.
L'ensemble des appareils sécuritaires ont compris que l'immigration leur ramène beaucoup d'argent. Ces appareils sont en concurrence entre eux, par exemple pour la gestion des migrants. Et il y a au moins 6 appareils sécuritaires qui interviennent dans ce dossier.
Ahmad Lamloum raconte les confiscations des téléphones portables et de l'argent des migrants dès qu'ils sont interceptés en mer par les gardes-côtes. Alors que les navires utilisés sont financés par l'Union européenne. Les exactions et les vols des migrants en mer sont devenus la norme, explique le chercheur, et les autorités libyennes et européennes ferment les yeux.
Le ministre de l'Intérieur à Tripoli est lui-même impliqué dans cette affaire. Il sait très bien ce qu'il se passe dans les centres de rétention qu'il est censé gérer. C'est lui le premier responsable des gardes-côtes libyens et des gardes frontières. C'est une première qu'un ministère de l'Intérieur intervienne pour garder les frontières alors que c'est du ressort de l'armée.
Malgré ces exactions, selon l'OIM, le nombre de migrants en Libye a augmenté de 4% depuis le début de l'année.
RFI, 9h34 à Niamey, au Niger, où l'Union des scolaires donne de la voix à la fin de l'année académique approche et avec elle la période des examens. Et c'est dans ce contexte que ce groupement de syndicats d'enseignants a entamé lundi sa troisième grève en un mois, cette fois pour une durée de 5 jours. L'USN appelle le gouvernement à renouer le dialogue afin d'essayer de sauver la fin de l'année scolaire. Précision, explication avec Magali Lagrange.
Il ne peut y avoir de souveraineté sans une jeunesse bien formée, écrit dans son communiqué l'Union des scolaires nigériens, inquiète de voir des salles de classe désertées. Pour la troisième fois en un mois, la dynamique des syndicats du secteur de l'éducation et de la formation, qui rassemble une trentaine de structures, a lancé une grève cette semaine. Un climat de paralysie générale, selon l'USN, qui expose dangereusement l'année scolaire à l'approche de la période des examens et des évaluations. Le syndicat des élèves et étudiants demande donc au ministère concerné de renouer le dialogue. Entre le gouvernement et les principaux syndicats d'enseignants, les discussions sont pour l'instant à l'arrêt. Pour la dynamique des syndicats de l'éducation, c'est un bras de fer qui est engagé. Elle entend accentuer la pression et maintient ses revendications, embauche des enseignants contractuels dans la fonction publique et paiement de rappel de salaire, des engagements qu'elle reproche au gouvernement d'avoir pris en décembre sans les avoir tenus. L'Union des scolaires nigériens demande aussi la mise en place d'un comité permanent de dialogue pour éviter de telles crises et dénonce la fracture scolaire qui s'installe entre les élèves des secteurs publics et privés.
Magali Lagrange, l'actualité en République démocratique du Congo. Et cette question, comment comprendre l'annonce de Martin Fayulu, l'opposant qui a surpris beaucoup de monde lundi, en disant vouloir rencontrer Félix Tshisekedi, une main tendue inattendue, alors que le président du parti SID a co-signé il y a un mois à peine un communiqué avec Joseph Kabila appelant à un dialogue national. Cela a-t-il un rapport avec le gouvernement que le chef d'État envisage de remanier? Et comment le président congolais a-t-il réagi? Lui qui est en froid avec Martin Fayulu depuis l'élection présidentielle de 2018 que ce dernier estime avoir gagné. Élément de réponse avec Passion Ligodi.
D'autres attribuent à Martin Fayulu même l'ambition de devenir Premier ministre. Des rumeurs que ce dernier balaye d'un revers de demain, qualifiant ses spéculations d'insultes à sa personne et à son combat. Concernant la rencontre qu'il souhaite avoir avec Félix Tshisekedi, son équipe précise qu'il ne s'agira pas d'un simple dialogue privé entre les deux hommes. Sur RFI, Martin Fayulu lui-même a expliqué que son initiative vise à débloquer, dit-il, la situation actuelle, constatant que Félix Tshisekedi refuse jusque-là de rencontrer les religieux qui ont proposé un dialogue national. Martin Fayulu révèle avoir informé les évêques il y a 2 mois de son intention de rencontrer Tshisekedi pour surmonter le blocage. Il a également réitéré cette position il y a 2 semaines à Fornia Singbe, médiateur désigné par l'Union africaine. Si Tshisekedi ne veut pas, j'aurai fait ma part. Je m'approcherai de toute personne qui est contre la balkanisation de notre pays, affirme Martin Fayulu à RFI. Côté présidentiel, Félix Tshisekedi a été surpris par la main tendue. Selon plusieurs sources, la rencontre entre les deux hommes pourrait avoir lieu dans la semaine.
Patient Ligodi. Dans l'actualité ce matin également, les avocats de Succès Masra qui estiment que l'audition d'hier, N'Djamena, s'est globalement bien déroulé. L'opposant tchadien, pour la première fois depuis son arrestation il y a 3 semaines, a été entendu par un juge hier sur le fond de ce qui lui est reproché. L'ancien Premier ministre accusé d'incitation à la haine et à la révolte, soupçonné d'avoir incité au massacre d'une quarantaine d'éleveurs dans la région du Logone occidental. Enfin, d'où viennent les téléphones portables et surtout par qui sont-ils fabriqués et dans quelles conditions leurs matériaux sont-ils extraits? C'est le thème de Monsieur Pioche, court-métrage récemment récompensé par le festival du film de Nikon, festival spécialisé dans les films de quelques minutes, pas plus. Monsieur Pioche, qui dénonce l'exploitation des enfants dans les mines. Le comédien sénégalais Tiernoba a participé à sa production et pour RFI, Guillaume Thibault l'a rencontré.
Salut mon jeune ami.
En 2 minutes 30, Monsieur Pioche met une gifle aux spectateurs, à tous ceux qui oublient comment sont construits nos outils de communication, explique Tiernoba.
Ça se passe dans une mine, on ne sait pas où, ça peut être au Congo, ça peut être en Australie, ça peut être un petit peu partout. C'est vraiment sur l'exploitation des enfants, des téléphones que nous utilisons aujourd'hui, tous les appareils que nous utilisons aujourd'hui. On est content de l'avoir, mais on ne sait pas qu'il y a eu des gamins qui ont travaillé pour nous permettre d'avoir ce téléphone-là. Tant que ça ne tape pas à notre porte, c'est pas un problème, c'est pas grave, c'est très très loin.
On ne peut pas réciter une leçon que l'on n'a jamais apprise, aime répéter Tiernoba. Une citation de son père Djibril Ba, ancien directeur de la RTS. Pour le comédien, le cinéma est une porte sur le monde, s'il est bien compris. Il cherche aujourd'hui à doubler en Wolof des films étrangers pour les rendre accessibles au Sénégal.
On est sur un projet, c'est de pouvoir faire du doublage dans l'autre sens. Que les gens qui sont au Sénégal, la mamie qui est au fin fond de Tambacounda, aient la possibilité de voir un documentaire qui a été fait au Tibet. Lorsque c'est doublé en Wolof, 100% de la population peut le comprendre et peut avoir accès à tout, à ce savoir.
Fort de la réussite de Monsieur Pioche, Tiernoba multiplie donc les projets. Pour les producteurs intéressés, le court-métrage sur l'exploitation des enfants est accessible sur toutes les plateformes.
C'était Guillaume Thibault ici à Paris. Il est maintenant 10h40 et vous êtes avec Juan Gomez.
Merci Xavier Besson, bonne journée. Vous revenez demain, évidemment, dans la matinale de RFI, 10h40.